Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots. Voilà, pour la dernière émission, donc...
En voiture.
Voilà, avant l'été, enfin, voilà. Pour l'été, quoi, voilà. Donc, on vous a, comme d'habitude, préparé, quelques petits textes concernant les vacances et quelques petites cartes postales aussi qu'on s'est
On part en voyage.
Voilà. Donc... Alors, ce que je vous propose pour cette dernière émission du début de l'été, c'est d'aller dans le Grand Nord, en Laponie carrément, avec le naturaliste suédois Carl von Linné. Donc, c'est le père de la taxinomie moderne des espèces. Et donc, avant de publier donc des ouvrages savants et de classification rigoureuse, dont la somme du Systema Natura. Donc, dont la première édition est parue en 1735. Donc, il effectue un voyage en Laponie en 1732, dont il garde une empreinte indélébile en le consignant dans un journal intime quotidien. Donc, les Lapons, ce peuple marcheur par excellence, éleveur de rennes, lui pose une question qu'il tente de résoudre par des observations précises, physiques, biologiques et psychologiques. Donc, pourquoi les lapins... Les lapins...
Oui, ben les lapins aussi.
Les lapins aussi sont rapides. Alors là, c'est les lapins. Hein. Pourquoi les lapins sont-ils si rapides?
Là, Mireille, ça commence très fort. Voilà. On peut peut-être préciser que la taxinomie...
La
taxinomie, c'est la science des classifications. Voilà. On va se taire pour écouter
voilà,
la
c'est
suite.
Ça. Et donc, vous savez, il a classé toutes les fleurs. Hein, tous les grands livres de botanique qu'on voit, c'est d'après la classification de von Linné.
Voilà.
Alors, je vous propose donc d'écouter Dominique qui va nous dire pourquoi les lapons ont le pied si léger.
Le matin, nous fûmes debout très tôt et après un quart de mille, nous sommes arrivés sur le glacier qui était une assez haute montagne, partout couverte de neige éternelle. Je vis que la neige était très dure comme gelée. Nous marchions sur la croûte et nos pieds traversaient la croûte, exactement comme si nous avions marché dans du sable. Ici et là, des rivières qui passaient par-dessous, à certains endroits tout était effondré, et on pouvait voir de nombreuses couches superposées. Les rivières commençaient à couler vers l'ouest, signe que nous étions en terre lapone norvégienne. Le doux sol vert qui auparavant avait alterné avec la neige ne se voyait plus, les fleurs non plus. Tout le terrain était couvert de neige blanche. Le vent froid de l'est nous chassait, contraint de protéger nos mains du gel et de mettre un manteau de plus. Nous marchions sur la face nord des montagnes, poussés par le vent, tombions fréquemment et dévalions quelques distances jusqu'à une portée de fusil en ce qui me concerne, et je me retrouvais au bord du précipice, bien près de voir la comédie finir. La pluie venait par le côté glacé et s'accrochait comme une croûte de glace sur les chaussures et le dos. Si le vent avait été de face et non de dos, jamais nous n'aurions supporté un si long et si difficile chemin. Après 3 ou 4 mille, des rochers nus et stériles apparurent. Finalement, entre eux, nous aperçûmes la mer de l'ouest. D'un perpétuel printemps, nous passions à l'hiver perpétuel. Sur la glace, on ne voyait que des pagos lapis, Iaticula, Igrande, pluvier à col noir, pagos en lapon, pattes jaunes, safran et gorge blanche. Vers midi, nous arrivâmes au col. Nous voyions au-dessous de nous les plus grands arbres, aussi petits que des herbes, et une étendue agréablement verte. Les plantes de montagne étaient les mêmes que de l'autre côté. Nous descendions. Si longue et si abrupte était la pente que j'avais l'impression de marcher sans fin. Plus bas, les plantes de montagne disparurent. Quel plaisir pour mon corps fatigué que d'arriver en bas. Je quittais une montagne glacée pour arriver dans une vallée toute frémissante de chaleur. Je m'assis pour manger des fraises sauvages. Au lieu de la neige et de la glace, je voyais la végétation dans toute sa magnificence, dont une herbe haute que je n'avais jamais vue. Au lieu du vent, je sentais l'odeur délicieuse du Trifolio florente, trèfle en fleurs, et d'autres espèces. Oh, été merveilleux! Pour la plupart, les plantes étaient les mêmes qu'en Uppland, sauf Aconitum, Licocte, Aconite du loup, et Muscipula parva montana, Silène des rochers. Fleurs blanches dressées, ainsi que Coronopus marit, Punctata kil, plantain maritime, et Mesomora, cornouiller de Suède, et des mûres jaunes. Épuisé, je me rafraîchis avec du lait de vache, me réconfortais en m'installant bien assis pour manger. J'étais étonné qu'après une si longue marche, les deux lapons, l'un vers les 70, l'autre 50 ans, puissent courir et jouer autour de moi. C'est alors que je songeais à résoudre la question que le docteur Rosen m'avait posée. Pourquoi les lapons ont-ils le pied si léger? Voici la réponse, il y en a plusieurs. Premièrement, les lapons marchent avec des bottes sans talons. On note que des maîtres à danser et les danseurs de cordes ne portent qu'un petit talon ou pas de talon, grâce à quoi ils font des exercices très rapides, impossibles à reproduire avec des chaussures à talons. Les hommes qui ont de grands et forts talons marchent d'un pas appuyé et lourd. De la même façon, on met des fers lourds aux chevaux qui doivent avoir un pas ferme pendant qu'ils sont encore jeunes. Et le valet de ferme enlève ses chaussures quand il veut courir, car le talon modifie de moitié la position des muscles de la plante du pied. Ceux-ci deviennent plus rigides lorsque les talons sont hauts, une jambe de bois marche lourdement. Deuxièmement, ils sont habitués à la course depuis l'âge le plus tendre. Aussitôt que les enfants lapons peuvent marcher, ils doivent courir après les rennes, et à peine plus grands, ils doivent les suivre, alors que cet animal est plus rapide que la chèvre. Si un coureur ou un danseur de corde peut acquérir de la légèreté en s'exerçant depuis son jeune âge, pourquoi pas aussi le lapon, qui, jusqu'à ce qu'il soit marié, doit suivre les rennes tout au long de l'année. Troisièmement, ils sont libérés de durs travaux. Tous les travaux durs, comme de pousser la charrue, battre le blé, couper la paille, abattre les bois, etc., font le sang épais et le corps raide. On voit donc pourquoi la peau du paysan est dure et coriace, la peau d'une jeune fille douce et tendre. Un paysan ne peut pas faire les cabrioles que fait la jeune fille. Nous ne sommes jamais plus souples que quand nous sommes enfants, jamais plus raides que quand nous sommes usés et vieux. Un enfant peut mettre le pied sur l'épaule, un paysan pas même mordre son orteil. Donc les lapons deviennent légers dans tous leurs travaux parce qu'ils n'accomplissent aucun travail de force. Quatrièmement, la souplesse des muscles. Un danseur de corde étend et plie les articulations de son élève pour les exercer à la souplesse. Un maître à danser force les muscles à s'étirer pour que la jambe reste levée. Une flexion répétée devient une habitude naturelle. Ainsi, chez les lapons, les muscles de la marche sont toujours fléchis car ils sont assis, les jambes croisées. Ce que nous ne pouvons pas faire longtemps sans peine. Je trouvais cela difficile à imiter au début. À présent que l'habitude m'est venue, je marche quatre fois plus longtemps qu'avant. Cinquièmement, nourriture carnée. On voit que les créatures qui mangent des végétaux sont plus raides, mais fortes, telles le cerf, le taureau, etc. Par contre, les carnivores comme le chien, le chat, le loup, le lion, etc. sont plus souples. La cause, je ne la connais pas, mais c'est ainsi. Les lapons sont tout à fait carnivores. Ils n'ont absolument pas un plat de végétaux. Car même s'ils mangent parfois un colis angelica cru, comme d'autres une pomme, parfois quelques feuilles d'oseille, la proportion avec la viande est de 1 à 1 million. Autant dire nul. Au printemps, ils mangent du poisson. En hiver, exclusivement de la viande. En été, du lait et ses dérivés comme le fromage. Ici, je ne peux pas m'empêcher, incidemment, d'évoquer ces gens qui veulent prouver que l'homme est omnivore, à cause de ses dents composées d'incisives comme les fructivores, le lièvre, le lapin, etc., des canines comme les carnivores, le chien, le chat, etc., de molaires comme les herbivores, la vache, le cheval, etc. Ce raisonnement ne me satisfait pas, car si on examine les dents incisives, elles sont d'une toute autre nature que celles des casseurs de noix, tels le rat, le lièvre, etc., dont les dents sont proéminentes et à angle plus ouvert que droit, alors que les nôtres coïncident perpendiculairement par le sommet. Regardez les dents des castors, etc. Certains animaux carnivores aussi ont des incisives. Nous avons des canines importantes, même s'il n'y en a que quatre. Les molaires ne nous conduisent pas à être herbivores pour le seul motif que le bœuf et la vache en ont. Je n'ai pas encore vu un herbivore qui ait un estomac simple ou qui ne rumine pas. De cela, le rat et sa famille ne doivent pas être écartés. Regardons plutôt notre espèce. Considérons la main et les doigts et nous nous rendons compte que nous sommes assez proches parents des babouins et des singes. Voyons s'ils ne sont pas carnivores, cela donne la réponse. Sixièmement, ils se contentent de peu. Un lapon ne mange pas autant qu'il peut, mais seulement de temps en temps et en petite quantité. Le paysan finnois mange des raves et le scanien de la bouillie, qu'il ingurgite autant qu'il peut en supporter. Le dalécarlien mange jusqu'à ce que son ventre soit tendu comme un tambour. C'est pourquoi il est plus apte à bêcher et à creuser des fossés qu'à courir dans les montagnes. Le lapon est maigre et mince. Je n'ai pas encore vu un lapon avec un gros ventre. Le lait aussi le rend souple. Septièmement, j'ai observé les genoux, les pieds, etc. Mais y ai vu les mêmes caractères que sur les autres humains. Pourtant, il me semblait que la paume du pied était sur le côté intérieur, un peu plus concave que chez les autres. Ce que cela peut avoir pour conséquence, les mécaniciens le savent mieux que moi. Huitièmement, tous les lapons sont petits. Je n'ai pas encore vu un aussi grand que moi. Un corps lourd et grand ne peut marcher aussi agilement qu'un petit, bien que les organes en soient beaucoup plus forts et plus longs. On voit que les créatures petites, par exemple un cheval de Hollande ou un cheval de Norland, courent très vite. Et bien qu'un grand cheval scanien puisse les dépasser, on peut s'étonner de la façon dont ils agitent leurs jambes et constater qu'elles se meuvent plus vite que celles du plus grand cheval. C'est étonnant de voir comme l'homme de Halsingland est grand et le lapon petit. La cause est claire. Si on donne beaucoup à manger à un chiot, il devient grand, mais peu, petit. Si on laisse un chiot à la chaleur, il devient grand, mais au froid, petit.
Alors, vous vous rappelez peut-être de cette musique de film.
On va vous aider un petit peu.
Donc, c'était les chariots de feu avec une musique donc, de Vangelis. Donc, cette histoire d'un coureur à pied là, qui...
Voilà, dans les Jeux Olympiques de 1924, il y a 100 ans.
Voilà. Ah, donc,
un film de Hugh Hudson de 81. Voilà, on précise des choses. Hein. Et puis, les chariots de feu, tu sais d'où ça vient, Mireille ?
Non.
Eh ben, c'est le titre. Ce titre est inspiré d'un vers du poème ou du poème. Décidément, du poète William Blake. Et puis on peut aussi dire un petit mot sur Vangelis, hein, qui faisait partie des Aphrodite Child avec Demis Roussos. Et c'est quand même un pionnier de la musique électronique qui est mort en 2022, pas longtemps.
Bon. Donc voilà, donc c'est un petit hommage.
Voilà. Musique,
hein. Et puis comme c'est bientôt les Jeux Olympiques et que là on vous parlait de course à pied, voilà.
Vous serez dans la course.
C'était un petit clin d'œil. Alors maintenant on va passer à quelque chose de tout à fait différent. Et car en effet pour Paul Morand, ce n'est pas la destination qui compte, car la seule intention de partir réveille l'imaginaire, assoupit et l'enflamme. Et donc l'élan du départ et les préparatives plongent notre insatiable voyageur dans un état d'effervescence poétique. Et pour lui, aucun voyage n'est aussi beau que ceux dont on rêve.
Oh, c'est beau. Bah, je peux compléter avec Loïc Perron, le grand navigateur à la voile, qui a dit que le plus beau voyage est celui que l'on n'a pas encore fait.
Voilà.
Avec un peu.
Donc, je vous propose donc d'écouter un petit extrait donc de Le Voyage de Paul Morand. Et cet extrait s'appelle Volupté des préparatifs.
Un être rencontré, un mot cueilli au passage, et voici que germe l'idée de partir. Parfois, elle attend des années, dans l'ombre, son heure. Parfois, on joue à préparer une impossible fuite, en sachant bien qu'on ne s'y donnera pas, et l'on est surpris de voir qu'on a déclenché automatiquement une machine dont on n'est plus le maître. Nous ne pensions pas vraiment que cela pût arriver, et nous voici dans le train. Aucun voyage n'est aussi beau que ceux dont on rêve. Volupté des premiers préparatifs. Renseignements furtifs dans les agences chez Cook, dont on rapporte chez soi le journal des voyages, le merveilleux Bradshaw et un tas d'imprimés rayés de noir et de rouge avec des flèches dans les colonnes rigides et des listes de bateaux avec leurs noms guerriers ou tendres qui viennent docilement se ranger au bout des voies ferrées pour enserrer l'univers d'une ceinture ininterrompue et les horaires à peine marqués, ça et là, toutes les 10 heures, d'une station, de ces grands express qui ne daignent s'arrêter nulle part et qu'on nomme, chez les Malais, et pour cette raison, les trains fiers. La chambre du futur voyageur est déjà pleine de photographies, d'images de glaciers, de sapins, de déserts, de civilisations en ruine, de coutumes primitives, de drapeaux étrangers, de soleil de minuit, de casques et de chapeaux. Il achète des livres, prend sur son sommeil pour aller à la Bibliothèque nationale consulter les récits des voyageurs anciens sur les pays qu'il va parcourir. Livres poussiéreux que personne n'a ouverts depuis des années, entre les feuillets desquels des missionnaires ont laissé des notes sales et illisibles. Ira-t-il à Athènes ou à Madère ? Il se croit obligé de relire l'histoire des grands voyageurs de Jules Verne, ou les bulletins d'Auckland Society, la plus grande encyclopédie des anciens voyageurs. Il se croit Marco Polo, Cook, Burton, Dutsy, Mungo Park, Livingstone ou René Caillé. Les contrées qu'il va visiter et dont il connaissait hier à peine le nom prennent soudain de l'importance et viennent se placer au premier plan. Il achète des cartes, des atlas allemands avec rose des vents et vent peint en rose. Et les courants tressés, semés de mille flèches contradictoires et les profondeurs de la mer du vert le plus tendre au bleu le plus noir, des atlas anglais moins savant qu'Hérodone ou Scrabon. Tel autostoppeur regrette de n'avoir pas étudié la géographie ou d'en avoir appris une qui n'a plus cours. Au bout de quelques jours, ses pieds ne touchent plus terre, il assiste à un grand décalage de toute sa vie, il est déjà parti. C'est la mystique des voyages. Bien qu'il communique encore avec les vivants, le voyageur n'est plus parmi eux. On pourrait écrire une nouvelle dont le héros, séduit par cette première expérience, plus poétique que le voyage lui-même, s'épuiserait à essayer de partir.
C'est bien écrit. On ne peut pas dire.
Hein, voilà.
Malgré le côté sulfureux du personnage dont tu vas nous parler.
Voilà. Pas très sympathique. Voilà. Donc Paul Morand, il est né le 13 mars 1888 à Paris. Et il est mort le 23 juillet 1976. Alors ça doit être 1888.
Oui.
Non, 1888, 1976.
Il a vécu assez vieux, ce monsieur.
Oh là là. J'ai la tête en vrac ce matin. Alors, c'est un écrivain, diplomate et académicien français. Alors, il est ouvertement antisémite et collaborationniste. Pourtant, il est quand même ambassadeur de l'État français de Vichy durant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un personnage quand même peu recommandable, hein, dépourvu de qualités humaines. Il est lâche et méprisant, mufle avec les femmes, cynique avec les éditeurs, opportuniste avec tout le monde, ingrat jusqu'à la déloyauté avec ses amis, incapable de la moindre empathie, et la liste est encore longue des qualificatifs peu engageants. Mais il est l'auteur d'environ 80 ouvrages qui touchent à tous les genres littéraires, et il était très admiré par les autres sphères de la société et par l'avant-garde artistique qui en faisait un favori. Il a été classé parmi les premiers modernistes et imagistes. Et Morand donc a fait 4 offres d'admission à l'Académie française et a finalement été accepté en 1968 malgré les protestations virulentes de Charles de Gaulle.
Ah, il y tenait à rentrer à l'Académie française. Hein. Bon, c'était, comme tu viens de le dire, un homme méprisable, mais néanmoins un grand écrivain, ami de Proust, de Cocteau. Proust était séduit par justement l'aspect double de sa personnalité. Il écrivait « Cet homme, doux comme un enfant de cœur, raffiné à la fois comme un Stendhal et un Mosca, et en même temps âpre et implacable comme un Rastignac qui serait terroriste. » C'est haut en couleur. Hein.
Voilà. Bon. Donc, c'est vrai qu'il écrit bien, mais
Il écrivait bien.
Peu recommandable. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut bien, une fois les préparatifs faits, pousser à partir en voyage? Eh bien, pour Peter Fleming, le frère du créateur de James Bond, c'est la simple lecture d'une petite annonce du Times ainsi rédigée. Départ juin. Oh, tu veux la lire peut-être, la petite annonce?
Ah oui, c'est amusant, cette annonce. Alors, départ juin, exploration, rivière, Brésil et si possible, retrouver colonel Fawcett. Gibier petit et gros, abondant. Pêche exceptionnelle. Place encore pour 2 fusils. Référence très sérieuse souhaitée. Écrire boîte postale X.
Voilà. Donc c'est bien de répondre à une petite annonce pour partir,
pas mal comme annonce.
Pour partir en voyage. Donc cet extrait qu'on va écouter est extrait d'un livre intitulé « Un aventurier au Brésil ».
Il faut bien moins de courage pour devenir explorateur qu'expert comptable. La perspective de demeurer assis à un bureau au milieu des vapeurs citadines et d'aligner des chiffres au fil des années exige davantage d'héroïsme et d'une sorte plus profitable à la société que celui dont fait preuve à l'occasion l'explorateur. Les conditions de vie de ce dernier sont en effet si naturelles qu'il se découvrira muni des armes nécessaires pour faire face aux épreuves qui l'attendent. Le malheureux comptable, au contraire, mène une existence tout à fait artificielle, pour laquelle l'homme est inadapté. Enfin, le comptable fait œuvre utile, ce qui n'est pas, en tout cas de nos jours, le cas de l'explorateur. À me lire, le lecteur doit songer que je ne cours le monde que pour me consacrer, entre 2 voyages, à d'épuisantes recherches sur la psychologie de l'expert comptable. Hélas, il n'en est rien. Qu'il veuille bien m'excuser si je l'ai ennuyé avec mes théories. Voilà où je voulais en venir. Partir pour le Brésil central n'est ni louable ni extraordinaire. C'est même tout le contraire. Quel homme de mon âge refuserait de saisir une pareille chance si elle se présentait? Évidemment, nombreux sont ceux qui réussissent, à force de volonté, à renoncer aux rêves de leur enfance. Et après y avoir renoncé, ils les oublient. Quoi qu'il en soit, c'est ainsi que je m'explique les réactions de ceux à qui je confiais mes projets pendant les 6 semaines épiques qui précédèrent mon départ pour le Brésil. Je m'étais attendu à les voir envieux, ils étaient sidérés. Je me montrais sur cette affaire le plus discret possible, car rien n'est plus désagréable que d'être considéré comme un fou ou un héros quand on compte tout simplement prendre de très longues vacances. N'empêche, les réactions des autres étaient fort drôles et toujours instructives. Il y avait les prudents, ceux qui disaient « Vous faites une grosse bêtise. À cet avertissement, les sages ajoutaient « ça vous apprendra ». Et les très grands sages « mais ce n'est pas si bête que ça ». Il y avait aussi les romantiques, pour qui mon aspiration au voyage représentait une panacée universelle, si tout le monde était comme moi. Et puis les envieux, qui prétendaient me plaindre, et ceux qui, à différents degrés d'hypocrisie, juraient qu'ils donneraient n'importe quoi pour venir. Les consciencieux, curieux de savoir si je connaissais quelqu'un à l'ambassade. Les pragmatiques, intarissables sur les vaccins et les armes à feu. Ceux dont la géographie était le point faible m'offraient des lettres d'introduction à leurs cousins de Buenos Aires. Ou encore pensaient que j'allais voir des ruines aztèques. Il y avait les anxieux qui se demandaient si j'avais fait mon testament. Et les anciens combattants, prodigues en conseils sur la meilleure façon de se débarrasser des fourmis et sur l'art de cuire tel singe à la chair soi-disant aussi succulente que celle du lézard et du perroquet.
Des séries toute la nuit, sous réserve qu'il y ait du wifi. À nous les correspondances, vol de nuit sans turbulence. Je veux te voir tout dépenser dans ces souvenirs à fabriquer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances, compter les vagues se casser. La vie c'est pas qu'une école, t'es même pressé quand tu picoles. Laisse de côté ton agenda pour passer du temps avec moi. J'écrirai le mot d'absence, convalescence, port de plaisance. Une vraie semaine pour s'arrêter, maintenant qu'on fait plus qu'avancer. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Regardez les gens passer, sous réserve qu'il y a des gens. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé. Laissez le temps se défiler, y a rien de mieux pour la santé. Je te regarderai t'habiller, puis on ira prendre un café. C'est pas des plans sur la comète, juste un instant sur la planète. Pour oublier qu'il faudra rentrer si le vol est pas annulé. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer. Les vagues se casser, sous réserve qu'il y ait des vagues. La seule chose qui ait du sens, c'est de se barrer en vacances. Voir le soleil se lever, sous réserve qu'on soit réveillé.
Slash à la fin, on peut dire. Donc ce chanteur, je le découvre grâce à toi. Voilà. Séverin, donc.
Ouais, Séverin, donc il est C'est un Parisien, auteur-compositeur, interprète et producteur de musique française. Et en février donc 2019, il sort cet album Transatlantique, dont le morceau En Vacances est soutenu par France Inter et FIP.
Oui, on peut dire qu'il fait partie de la nouvelle génération un peu de chansons françaises à texte, comme on disait.
Bah oui,
quoi.
Oui.
Et j'ai même vu qu'il avait joué avec Philippe Catherine. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté de ce côté-là au niveau de la fantaisie.
Oui, de... Donc voilà, puis je trouvais que c'était une belle chanson, voilà, pour
les vacances. Très illustrative.
Alors maintenant, on va passer à quelques souvenirs de voyage de Blaise Cendrars. Alors, ce sont des poèmes qui ont été rassemblés sous le titre « Feuilles de route », donc rapportés d'un voyage en Afrique et en Amérique du Sud. Alors là, le poème s'appelle « Complet blanc ». Et bon, vous allez voir, c'est très court, mais c'est sympa.
Et blanc, acheté à Dakar. Au pied, j'ai mes espadrilles achetées à Villa Garcia. Je tiens à la main mon bonnet basque rapporté de Biarritz. Mes poches sont pleines de caporal ordinaire. De temps en temps, je flaire mon étui en bois de Russie. Je fais sonner des sous dans ma poche et une livre sterling en or. J'ai mon gros mouchoir calabré et des allumettes de cire de ces grosses que l'on ne trouve qu'à Londres. Je suis propre, lavé, frotté, plus que le pont heureux comme un roi. Riche comme un milliardaire, libre comme un homme.
Voilà.
C'est bien du Blaise Cendrars. On a l'esprit de liberté qui souffle toujours dans ces mots.
Alors, Blaise Cendrars, il est né donc en Suisse. Hein, il va y passer une grande partie de son enfance à l'étranger, et en particulier en Égypte et à Naples. Et la légende lui prête une première fugue alors qu'il était seulement âgé de 16 ans. Il aurait alors pris le premier train qui passait et se serait retrouvé en Russie.
Oui, le transsibérien, oui.
Voilà, c'est ça. Alors, tu peux dire peut-être ce qu'il est...
Non. Je n'ai su résister à l'appel de l'inconnu. Dehors, la vie grouille. J'entends la trompe des autos sur la route, le sifflet des locomotives, la sirène des paquebots. Je songe à des pays perdus que je ne connais pas.
Et donc, Cendrars, il va bourlinguer aux quatre coins du monde, mais c'est dans quand même l'imaginaire qu'il va trouver son royaume.
Oui, alors Mireille, je ne résiste pas à l'envie de lire ce qui suit immédiatement le complet blanc.
Vas-y.
D'ailleurs, on ne dit plus tellement complet blanc, on dit veste, c'est marrant, le mot complet. La suite, c'est extrait d'un recueil de poésie qui s'intitule « Au cœur du monde ». Poésie complète de 1924 à 1929, et ça va bien avec ce qui vient d'être lu, c'est la cabine numéro 6. Je l'occupe, je devrais toujours vivre ici, je n'ai aucun mérite à y rester enfermé et à travailler. D'ailleurs, je ne travaille pas, j'écris tout ce qui me passe par la tête. Non, tout de même pas tout, car des tas de choses me passent par la tête, mais n'entrent pas dans ma cabine. Je vis dans un courant d'air, le hublot grand ouvert et le ventilateur ronflant. Je ne lis rien.
Alors maintenant, je vous propose de me passer à Georges Perec. Voilà. Qui a écrit quelques cartes postales, voilà. Auteur qui sait mettre en lumière l'ordinaire et observer les usages de ses contemporains avec un regard neutre. Alors, il n'y a rien d'exotique dans son quotidien, dans l'inventaire de nos poches, mais il y trouve quant à lui amplement de quoi s'étonner. Et là, tout est là, tous les jours, devant nos yeux. Décrivez une rue, décrivez-en une autre et comparez, dit-il. Hein. Effectivement, donc la familiarité émousse l'étonnement. Même les poissons ne s'émerveillent pas devant l'eau car ils sont occupés à nager dedans.
Ah bah oui.
Ça, c'est Aldous Huxley qui a écrit ça. Et le ton banal et concis employé au dos des cartes postales colorées et prometteuses de mirages lointains estompe ainsi l'exotisme. On y joue à la pétanque, au scrabble, au foot. La nourriture est typique, les indigènes réjouissants.
Tout un programme.
Alors, on va écouter quelques cartes postales de Georges Perec, donc intitulé « Bon baiser de partout », et c'est extrait d'un livre intitulé « L'infra ordinaire.
On vadrouille à travers Chypre. Le soleil est de la partie. On est rouge comme des coques, mais c'est quand même chouette. Espérons vous voir à notre retour.
Nous sillonnons la Costa Esmeralda. Très intéressant. Nourriture typique, indigène réjouissant, mille pensées.
Nous campons près de Woodsall. On se dort au soleil. Omar a tous les repas. J'ai pêché un saumon. Mille pensées.
On est à l'hôtel Alhambra. On est comme des princes. La vie de château. Le musée est très beau. Mille pensées.
On est descendu au Cheval d'Or, mais on regrette un peu la plage. Pas les coups de soleil. On rentre dans 15 jours.
Nous vadrouillons en Troade. Site inoubliable. Beau temps. Nourriture parfois curieuse. Mille baisers.
Nous, on fait notre croisière dans le massif central. Grande randonnée avec toute l'équipe. C'est chouette. On sera à Paris le 31.
Nous voici à Draguignan. On va tous les jours à la mer se laisser bronzer. Je joue au mini-golf, tout plein de gros bécots.
On a atterri à Kerkena. Il fait beau. On est toute une bande à se la couler douce. On pense souvent à toi.
On est à l'hôtel Xanadu. Luxe, calme et volupté. Nourriture suave. Papa prend du poids. Mille baisers.
On est à l'hôtel des Pins. On bronze sur la plage et on joue au Scrabble. Mille affectueuses pensées.
En vacances à Zanzibar, le soleil tape dur, mais la nourriture est exquise. On pense beaucoup à vous.
On traverse la Sicile, on se dort au soleil, balade à Dodane. Mille baisers.
Un petit mot de Brighton. On bronze au soleil anglais. Rencontrer plein de types très sympas. Je téléphonerai à mon retour fin août.
Vacances à Narbonne. Calme divin, cassoulet maison. Un peu de pétanque pour garder la ligne. Baisers.
Ah, Zanzibar, rien que le nom me fait voyager.
Alors Georges Perec donc, est un écrivain, poète et verbicruciste français, donc né le 7 mars 1936 à Paris, dans le 19e, et il est décédé le 3 mars 1982 à Ivry-sur-Seine. Alors, membre de l'Oulipo, à partir de 1967, il fonde ses œuvres sur l'utilisation de contraintes formelles, littéraires ou mathématiques, qui marquent son style.
Oui, parce que l'Oulipo, donc, c'était l'ouvroir de littérature potentielle. C'est un acronyme, et ça a été fondé en 1960 par un mathématicien, François Le Lyonnais, et par Queneau lui-même. C'est pour ça, ce que tu viens de dire, effectivement, il cherchait à écrire selon des contraintes, parfois même numériques, que mettre tant de mots, etc.
Et donc, il se fait connaître dès son premier roman, Les Choses, une histoire des années 60, qui obtient d'ailleurs le prix Renonneau 1965, qui restitue l'ère du temps à l'aube de la société de consommation. Suivre, entre autres, Un homme qui dort, portrait d'une solitude urbaine, puis La disparition, où il reprend son obsession de l'absence douloureuse. Ce premier roman oulipien de Perec est aussi un roman lipogrammatique. Il ne comporte aucun E.
Oui, c'est très fort. Hein.
Donc, c'est quand même très difficile d'écrire sans mettre de
E. Il n'y a pas un seul E dans le livre.
Donc, paraît ensuite en 1975 W, ou Le souvenir d'enfance, qui alterne fiction olympique fascinante et écriture autobiographique fragmentaire. Voilà. La vie mode d'emploi, qui obtient le prix Médicis en 1978, dans lequel il explore de façon méthodique et contrainte la vie des différents habitants d'un immeuble, lui apporte la consécration. Et en 2012, paraît le roman Le Condottiere, dont il avait égaré le manuscrit en 1966 pendant un déménagement et qui ne fut retrouvé qu'en 1992, 10 ans après sa mort. En 2017, donc, Georges Perec entre dans la Pléiade.
Oui, c'est un écrivain qui a vraiment écrit des livres étonnants. Il est l'auteur d'un livre qui s'intitule « Je me souviens ». Donc, il est parti un peu comme les surréalistes de l'idée d'écriture automatique, en commençant chaque phrase par « Je me souviens ». Il en a écrit 480 dans ce livre-là. Ça a été mis en scène et joué par Samy Frey en 89, puis en 2003. Moi, j'y étais en 2003, et c'était assez génial, parce que Samy Frey pédalait tout au long des 480 « Je me souviens » sur un vélo.
Il devait avoir la forme physique à la fin.
Oui, il devait avoir besoin de perdre du poids.
Bon, il n'est pas bien gros, Samy Frey.
Non.
peut-être.
Une grosse performance parce qu'il n'y a aucun lien entre les, bah, entre les phrases. Mmh. C'est je me souviens à chaque fois et donc ça va chercher dans un peu la mémoire et l'automatisme. Mmh. Voilà, bon souvenir.
Bon, bah, très bien. Donc voilà, ce qu'on va vous proposer maintenant, donc c'est quelques cartes postales que l'on vous a écrites, voilà pour l'été.
On a cherché l'inspiration.
Voilà, c'est ça. Alors, c'est parti. Enfin, si je mets le son.
Tout va très bien, mes chers parents. Tout va très bien malgré le mauvais temps. Hélas, mardi dans la journée, une pluie torrentielle a emporté notre tente et tout notre matériel de camping. Une large coulée de boue qui s'est jetée dans le fleuve, arrachant tout sur son passage. Nous nous sommes retrouvés complètement démunis avec seulement les quelques effets que nous portions sur nous. Nous étions plusieurs groupes dans cette situation précaire, mais fort heureusement, des secours se sont organisés et nous sommes hébergés actuellement dans une auberge de jeunesse. Nous avons passé la soirée autour d'un feu de cheminée. Quelques-uns plutôt effondrés, d'autres jouant à des jeux de société. Nous allons donc rentrer demain à la maison. Nous sommes désolés de rompre si rapidement votre brève tranquillité. On vous embrasse, Joe et Manu.
Cher ami, je suis pour quelques jours en vacances sur la fameuse île où j'étais allé dans l'Étoile Mystérieuse. Cette île où poussaient d'énormes champignons, où l'on voyait de gigantesques araignées et papillons, avait disparu sous les flots. C'était un aérolithe venu du fond de l'univers. Sous l'effet d'une éruption volcanique sous-marine, elle est réapparue il y a quelques années. Je me trouve donc dans l'unique hôtel de l'île qui se résume à quelques bungalows. Milou numéro 3 et moi soignons nos vieux os allongés sur une chaise longue sous un cocotier. Les objets souvenirs pullulent. Le capitaine serait fier de voir que l'objet le plus vendu est une réplique de sa célèbre casquette de marin. Il doit bien rire là où il se trouve, peut-être au paradis des amateurs de whisky. Avec toute mon amitié, votre vieux Tintin.
Bonjour Maïté et Ramon. Ce matin, nous sommes arrivés dans les vertes Asturies pour la première fois. C'est magnifique. Avec tous les contrastes du ciel, de la mer et des collines, on se croirait un peu sur les terres de Bretagne. Si ce n'était les maisons qui sont souvent construites en forme de chalet, sauf sur les côtes où le granit des habitations de pêcheurs domine. Quelle belle surprise ça a été de te voir hier après-midi à l'aéroport de Santander, Maïté. Notre découverte tous ensemble des plages et paseos de la ville, sous le soleil du Cantabrie, restera un vrai moment de partage dans nos souvenirs. Comment vont Jorge, Alma et Paula? Toujours aussi entreprenants et heureux de travailler avec vous après l'école? On se raconte tout ça à notre retour dans une semaine. Abrazos de Dominique et Sylvie.
Chers amis, j'ai pris soin des plantes comme promis et elles se portent à merveille. Quant au poisson rouge, il n'a pas survécu à son saut hors du bocal, il est vrai un peu aidé par le chat. J'ai poursuivi celui-ci dans toute la maison et il s'est enfui dans le jardin. Je ne l'ai pas revu depuis 3 jours, mais soyez sans crainte, il finira bien par revenir. Ah! J'ai refermé la porte en oubliant les clés à l'intérieur. Mais comme j'ai mis plein d'eau dans les plantes, ils pourront assurément attendre votre retour. À très bientôt, Margot.
Chers amis, me voilà une fois de plus arrivé dans mon refuge, au Mont-Saint-Clair, sur les hauteurs de Sète. J'ai voulu descendre par la Nationale 7 au volant de ma Citroën DS, mais j'ai quand même mis 12 heures pour atteindre ma destination. Mes deux siamois s'impatientaient un peu dans leur panier d'osier. Chaque jour, je fais une petite balade en direction de l'étang de Thau, où je tire quelques bords à bord de mon petit voilier. Je n'ai pas encore croisé cette fois-ci le peintre Soulage, qui habite tout près de la maison. J'ai trouvé cette carte postale bien colorée, qui vous montre les traditionnels jouteurs en action au-dessus du vieux bassin. Qui fera chuter l'autre le premier dans l'eau? Il faudra que j'écrive une chanson là-dessus. Je vous salue et vous dis à bientôt à Paris. Signé Georges Brassens.
Ardin, le 24 avril 2024. Bonjour les enfants. Me voici revenu au pays de l'enfance, une sorte de retour aux sources en quelque sorte, dans ce petit village que j'ai tellement aimé pendant les vacances de printemps et d'été, des années 60 ou 70. J'ai retrouvé aujourd'hui des lieux qui me parlent beaucoup, les deux maisons, l'ancienne et la nouvelle, comme on les appelait, les jardins, la cour aux poules, les tables écuries, où voisinaient les laitières normandes ou partenaises, les veaux dits culards, car forts en viande, le cheval percheron, dont je craignais les claquements de sabots, et bien sûr la chienne Diane, fidèle gardienne, et qui nous accompagnait pour conduire le troupeau au pré. Vous imaginez cette journée pleine d'émotions, vu les circonstances récentes. Gros bisous en direct des Deux-Sèvres, dites les Deux-Chèvres, nom qui va aussi très bien à ce département, papa.
Cher professeur, nous avons miraculeusement été soustraits à la voracité des Willy, la tribu anthropophage qui nous avait capturés il y a maintenant un an. Hélas, c'est une troupe de singes qui nous a libérés, mais nous sommes désormais prisonniers de leur appétit sexuel pour lequel ils sont renommés. Adieu, professeur.
Ça, c'est pas de chance.
Enfin, voilà.
Ah, elles sont amusantes, nos cartes postales. Alors Mireille, puisqu'il reste un tout petit peu de temps, je t'ai proposé de lire deux petites choses, une de Pérec, puisque tu as parlé fort bien de Georges Pérec, et une à nouveau de Sandrard, puisqu'on est dans les voyages tout le temps avec lui, quasiment.
Parfait.
Donc Georges Pérec, il a écrit un livre qui s'appelait malicieusement « Espèces d'espace ». Et là, il parle des frontières, et je trouve que c'est très intéressant ce qu'il en dit. Voilà. « Les pays sont séparés les uns des autres par des frontières ». Passer une frontière est toujours quelque chose d'un peu émouvant. Une limite imaginaire, matérialisée par une barrière de bois, qui d'ailleurs n'est jamais vraiment sur la ligne qu'elle est censée représenter. Mais quelques centaines de mètres en deçà ou au-delà suffit pour tout changer. Jusqu'au paysage même. C'est le même air, c'est la même terre, mais la route n'est plus tout à fait la même.
Ben,
c'est pas mal. Hein. Et Sandrard, ben, il est toujours un peu entre deux bateaux, entre deux trains. Et là, c'est une nouvelle poésie extraite de Au cœur du monde, de son recueil de poésie, qui s'intitule « Bagages ». Dire que des gens voyagent avec des tas de bagages. Moi, je n'ai emporté que ma malle de cabine et déjà je trouve que c'est trop, que j'ai trop de choses. Voici ce que ma malle contient. Le manuscrit de Moravagine, que je dois terminer à bord et mettre à la poste à Santos pour l'expédier à Grasset, le manuscrit du plan de l'aiguille que je dois terminer le plus tôt possible pour l'expédier au Sans Pareil, le manuscrit d'un ballet pour la prochaine saison des ballets suédois et que j'ai fait à bord entre Le Havre et La Palisse, d'où je l'ai envoyé à Eric Satie, le manuscrit du Cœur du Monde que j'enverrai au fur et à mesure à Raymond, le manuscrit de l'Équatoria, un gros paquet de contes nègres qui formera le deuxième volume de mon anthologie, plusieurs dossiers d'affaires, les deux gros volumes du dictionnaire d'Armesteter, ma Remington portable, dernier modèle, un paquet contenant des petites choses que je dois remettre à une femme à Rio, mes babouches de Tombouctou, qui portent les marques de la grande caravane, deux paires de godasses mirifiques, une paire de vernis, deux complets, deux par-dessus, mon gros chandail du Mont-Blanc, de menus objets pour la toilette, une cravate, six douzaines de mouchoirs, trois liquettes, six pyjamas, des kilos de papier blanc, et un gris-gris. Ma malle pèse 57 kilos, sans mon galurin gris.
Important, le galurin.
Le galurin, il l'avait tout le temps sur la tête. Hein. Et puis alors, les pyjamas, les mouchoirs, ça y allait. Hein.
Donc, faut prendre soin de soi pendant les vacances.
57 kilos voyages. Quand même.
Donc, c'est bien, alors. Et toi, quand tu pars en vacances, t'es chargé
Je suis peut-être moins chargé que certaines qui m'accompagnent.
Et t'emmènes la guitare
Oui, j'ai une guitare de voyage. Petit format, petit modèle.
Ah,
on s'équipe. Bon, et toi, Mireille, tu pars avec des livres?
Oui. Moi, ma valise est plus lourde à cause des livres qu'à cause des vêtements.
Des vêtements. Est-ce que tu t'es mise à la tablette numérique pour garder les livres?
Non, mais j'y pense sérieusement parce que plusieurs personnes dans mon entourage en ont une et je trouve que c'est pas mal parce que ça allège les bagages quand
ça
même.
Ça allège et tu peux en mettre plein.
Voilà. Donc, il va falloir que j'envisage ça de près.
Bon,
après, il n'y a pas le plaisir d'avoir son livre.
Ah, c'est vrai. faut panacher.
Voilà, donc, mais bon, mais c'est vrai que pour le voyage, ça peut être, ça c'est peut une bonne alternative quand même.
On fera le point à la rentrée.
Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, à la rentrée, on fera notre émission sur la dictée. Voilà. Parce qu'en c'est rentrée des classes, la reprise des cours et tout ça.
Bon, je vais ressortir mon bled. Donc,
voilà, c'est ça. Et trouve-nous quelques dictées à lire.
Je vais me mettre en quête.
Donc, très bien. Donc, alors là, je vous propose, pour conclure cette session d'été, la lecture d'une vraie carte postale que tu as reçue.
Oui.
D'ailleurs, voilà.
Absolument.
Alors, voilà. Donc, on va lire cette vraie carte postale qui nous vient tout droit d'Italie.
Chers Sylvie et Dominique, nous avons beaucoup apprécié Turin et Gênes où j'ai pu faire des visites très intéressantes. Palais, musée égyptien et cinéma. Après la ville, les Cinque Terre sont un véritable paradis. Les cinq villes qui en font partie plongent dans la mer avec des cultures en terrasse, des oliviers, des citronniers. J'ai fait plusieurs randonnées et ai bien transpiré. Nous espérons que vous avez bien supporté la canicule. Grosse bise, Marie et Jacques.
Voilà, donc c'est une jolie carte postale, parce que c'est vrai que maintenant, avec les textos, tout ça...
Ça, c'est une vraie.
On reçoit plus beaucoup de cartes postales.
Ah bah, les textos.
Voilà, donc on a quelques petits textos, des coups de téléphone.
Non, ça, c'est quand même la carte postale écrite.
Hein. Voilà, ça, c'est une jolie carte postale.
alors, qu'est-ce qu'on dit maintenant? Bonnes vacances?
Bah oui, bonnes vacances avec... On espère un maximum de soleil.
Oui, on peut y croire.
Donc voilà, et puis je ne sais pas si vous regardez les Jeux Olympiques ou en tout cas, un bel été à tous.
Il y a plein de manières de passer ses vacances.
Bah oui, voilà.
Alors à bientôt.
À bientôt.
Un auteur, une nouvelle.
Des histoires courtes racontées par des amoureux des mots.